Les possédés, troisième partie, chapitre 8, conclusion. Toutes les vilenies et tous les crimes dont on a lu le récit se découvrirent fort vite, beaucoup plus vite que ne l'avait prévu Pierre Stepanovitch. La nuit où son mari fut assassiné, la malheureuse Marie Ignatievna s'éveilla avant l'aurore, le chercha à ses côtés et, ne le trouvant pas, fut prise d'une inquiétude indicible. Dans la chambre couchait la garde envoyée par Arina Prokhorovna. Elle essaya vainement de calmer la jeune femme, et dès qu'il commença à faire jour, elle courut chercher la coucheuse, après avoir assuré à la malade que Madame Virginsky savait où était son mari et quand il reviendrait. En ce moment, Arina Prokhorovna était elle-même fort soucieuse, car elle venait d'apprendre de la bouche de son mari ce qui s'était passé cette nuit-là à Skvoreshniki. Il était rentré chez lui, entre 10 et 11 heures du soir, dans un état d'agitation effrayant. Se tordant les mains, il s'était jeté à plat ventre sur son lit et ne cessait de répéter à travers les sanglots qui secouaient convulsivement tout son corps. « Ce n'est pas cela, pas cela, ce n'est pas du tout cela !» À la fin, naturellement pressé de questions par sa femme, il lui avoua tout, mais il ne révéla rien à aucune personne de la maison. Lorsqu'Arina Prokhorovna eut décidé son mari à se mettre au lit, elle le quitta en lui disant d'un ton sévère « Si tu veux braire, braie du moins dans ton oreiller pour qu'on ne t'entende pas, et demain, si tu n'es pas un imbécile, ne fais semblant de rien. » Puis, en prévision d'une descente de police, elle cacha ou détruisit tout ce qui pouvait être compromettant, des papiers, des livres, des proclamations peut-être. Cela fait, Madame Virginsky se dit que personnellement, elle n'avait pas grand-chose à craindre, pas plus que sa sœur, sa tante, l'étudiante et peut-être aussi son frère, l'homme aux longues oreilles. Le matin, quand la garde malade vint la trouver, elle ne se fit pas prier pour aller voir Marie Ignatievna. D'ailleurs, un motif particulier la décida à se rendre à la maison Philipov. La veille, son mari lui avait parlé des calculs fondés par Pierre Stepanovitch sur le suicide de Kirillov. Or, n'ajoutant qu'une foi médiocre aux propos d'un homme que la terreur semblait avoir affolé, elle était pressée de s'assurer s'il y avait là autre chose que les rêves d'un esprit en délire. Mais, quand elle arriva chez Marie Ignatievna, il était trop tard. Après le départ de la garde malade, la jeune femme restée seule n'avait pu y tenir. Elle avait quitté son lit, avait jeté sur elle les premières nippes venues, des vêtements fort légers pour la saison, et s'était rendue au pavillon de Kirillov, pensant que l'ingénieur pouvait mieux que personne lui donner des nouvelles de son mari. Il est facile de se représenter l'effet que produisit sur l'accouchée le spectacle qui s'offrit à ses yeux. Chose à remarquer, elle ne lut pas la lettre laissée en évidence sur la table par le suicidé. Sans doute son trouble ne lui permit pas de l'apercevoir. Elle revint en courant à sa chambrette, prit l'enfant et sortit de la maison. La matinée était humide, il faisait du brouillard. Dans cette rue écartée, on ne rencontrait aucun passant. Marie Ignatievna s'essoufflait à courir dans la boue froide. À la fin, elle alla frapper de porte en porte. La première resta inexorablement fermée. La seconde, tardant à s'ouvrir, l'impatience la prit et elle s'en fut cogner à la suivante. Là demeurait notre marchand Titov. Les lamentations incohérentes de Marie Ignatievna jetèrent l'émoi dans cette maison. Elle assurait qu'on avait tué son mari, mais sans fournir aucun détail précis à ce sujet. Les Titov connaissaient un peu Chatov et son histoire. Ils furent saisis à la vue de cette femme accouchée, disait-elle, depuis 24 heures seulement, qui, par un froid pareil, courait les rues à peine vêtue, avec un baby presque nu sur les bras. Leur première idée fut qu'elle avait le délire, d'autant plus qu'ils ne pouvaient s'expliquer, d'après ses paroles, qui avait été tué, si c'était son mari ou Kirillov. S'apercevant qu'il ne la croyait pas, elle voulut s'en aller, mais ils la retinrent de force. Elle cria, dit-on, et se débattit d'une façon terrible. On se rendit à la maison Philippov. Au bout de 2 heures, le suicide de Kirillov et son écrit posthume furent connus de toute la ville. La police interrogea la couchée, qui n'avait pas encore perdu l'usage de ses sens. Ses réponses prouvèrent qu'elle n'avait pas lu la lettre de Kirillov. Mais alors, d'où concluait-elle que son mari était tué aussi? À cet égard, on ne put tirer d'elle aucun éclaircissement. Elle ne savait que répéter « Puisque celui-là est tué, mon mari doit l'être aussi, ils étaient ensemble !» Vers midi, elle eut une syncope et ne recouvra plus sa connaissance. 3 jours après, elle expira. L'enfant, victime du froid, était mort avant sa mère. Ne trouvant plus à la maison Philippov ni Marie Ignatievna, ni le baby, Arina Prokhorovna comprit que c'était mauvais signe et songea à retourner chez elle au plus vite. Mais, avant de s'éloigner, elle envoya la garde-malade demander au monsieur du pavillon si Marie Ignatievna était chez lui et s'il savait quelque chose d'elle. Cette femme revint en poussant des cris épouvantables. Après lui avoir demandé de se taire, au moyen du fameux argument « On vous appellera devant la justice », Madame Virginsky s'esquiva sans bruit. Il va de soi que ce matin même, elle fut invitée à fournir des renseignements, comme ayant donné des soins à l'accouchée. Mais sa déposition se réduisit à fort peu de choses. Elle raconta très nettement et avec beaucoup de sang-froid tout ce qu'elle-même avait vu et entendu chez Chatov. Quant au reste, elle déclara n'en avoir aucune connaissance et n'y rien comprendre. On peut se figurer quel vacarme ce fut dans la ville. Une nouvelle histoire, encore un meurtre. Mais ici, il y avait autre chose. On commençait à s'apercevoir qu'il existait réellement une société secrète d'assassins, de boutefeux révolutionnaires, d'émeutiers. La mort terrible de Lisa, l'assassinat de la femme Stavrogine, la fuite de Stavrogine lui-même, l'incendie, le bal au profit des institutrices, la licence qui régnait dans l'entourage de Julie Mikhaïlovna. Il n'y eut pas jusqu'à la disparition de Stepan Trofimovitch où l'on ne voulut absolument voir une énigme. Dans les propos qu'on échangeait à voix basse, le nom de Nicolas Vsevolodovitch revenait sans cesse. À la fin de la journée, on apprit aussi le départ de Pierre Stepanovitch, et, chose singulière, ce fut de lui qu'on parla le moins. En revanche, on s'entretint beaucoup ce jour-là du sénateur. Pendant presque toute la matinée, une foule nombreuse stationna devant la maison Philippov. La lettre de Kirillov trompa effectivement l'autorité. On crut et à l'assassinat de Chatov par l'ingénieur et au suicide de l'assassin. Toutefois, l'erreur ne fut pas de longue durée. Par exemple, le parc, dont il était parlé en termes si vagues dans la lettre de Kirillov, ne dérouta personne, contrairement aux prévisions de Pierre Stepanovitch. La police se transporta aussitôt à Skvoreshniki. Outre qu'il n'y avait pas d'autre parc que celui-là dans nos environs, une sorte d'instinct fit diriger les investigations de ce côté. Skvoreshniki était, en effet, mêlé directement ou indirectement à toutes les horreurs des derniers jours. C'est ainsi, du moins, que je m'explique le fait. Je note que, dès le matin, Barbara Petrovna, ne sachant rien encore, était partie à la recherche de Stepan Trofimovitch. Grâce à certains indices, le soir du même jour, le corps fut découvert dans l'étang. On avait trouvé sur le lieu du crime la casquette de Chatov, oubliée avec une étourderie singulière par les assassins. L'examen médical du cadavre et différentes présomptions donnèrent à penser, dès le premier moment, que Kirillov devait avoir eu des complices. Il était hors de doute que Chatov et Kirillov avaient fait partie d'une société secrète non étrangère aux proclamations. Mais quels étaient ses complices? Personne ce jour-là ne songea à soupçonner quelqu'un des nôtres. On savait que Kirillov vivait en reclus et dans une solitude telle que, comme le disait la lettre, Fedka, si activement recherché partout, avait pu loger chez lui pendant 10 jours. Ce qui surtout énervait l'esprit public, c'était l'impossibilité de tirer au clair ce sinistre imbroglio. Il serait difficile d'imaginer à quelle conclusion fantastique serait arrivée notre société en proie à l'affolement de la peur, si tout ne s'était brusquement expliqué le lendemain, grâce à Liamshin. Il ne put y tenir et donna raison au pressentiment qui, dans les derniers temps, avait fini par inquiéter Pierre Stepanovitch lui-même. Placé sous la surveillance de Tolkatchenko, le juif passa dans son lit toute la journée qui suivit le crime, et en apparence, il fut très calme. Le visage tourné du côté du mur, il ne disait pas un mot et répondait à peine si on lui adressait la parole. De la sorte, il ne sut rien de ce qui avait eu lieu ce jour-là en ville. Mais ces événements parvinrent à la connaissance de Tolkatchenko. En conséquence, le soir venu, il renonça au rôle que Pierre Stepanovitch lui avait confié auprès de Liamshin et quitta la ville pour se rendre dans le district. Autrement dit, il prit la fuite. Comme l'avait prédit Erkel, tous perdirent la tête. Je note en passant que, dans l'après-midi de ce même jour, Lipoutine disparut aussi. Toutefois, le départ de celui-ci ne fut connu de l'autorité que le lendemain soir. On alla interroger sa famille, et qui, fort inquiète de cette fugue, n'avait pas osé en parler dans la crainte de le compromettre. Mais je reviens à Liamshin. À peine eut-il été laissé seul qu'il s'élança hors de chez lui, et naturellement ne tarda pas à apprendre l'état des choses. Sans même repasser à son domicile, il se mit à fuir en courant tout droit devant lui. Mais l'obscurité était si épaisse et l'entreprise offrait tant de difficultés qu'après avoir enfilé successivement 2 ou 3 rues, il regagna sa demeure où il s'enferma pour la nuit. Le matin, paraît-il, il essaya de se tuer, mais cette tentative ne réussit pas. Jusqu'à midi, il resta chez lui, porte close. Puis tout d'un coup, il alla se dénoncer. Ce fut, dit-on, en se traînant sur ses genoux qu'il se présenta à la police. Il sanglotait, poussait des cris, baisait le parquet et se déclarait indigne même de baiser les bottes des hauts fonctionnaires qu'il avait devant lui. On le calma, on fit plus, on lui prodigua des caresses. Son interrogatoire dura 3 heures. Il avoua tout, révéla le dessous des événements, ne cacha rien de ce qu'il savait, devançant les questions et entrant même dans des détails inutiles. Bref, sa déposition montra les choses sous leur vrai jour. Le meurtre de Chatov, le suicide de Kirillov, l'incendie, la mort d'Elebiadkin, etc. passèrent au second plan, tandis qu'au premier apparurent Pierre Stepanovitch, la société secrète, l'organisation, le réseau. Quand on demanda à Liamshin quel avait été le mobile de tant d'assassinats, de scandales et d'abominations, il s'empressa de répondre que le but était l'ébranlement systématique des bases, la décomposition sociale, la ruine de tous les principes. Quand on aurait semé l'inquiétude dans les esprits, jeté le trouble partout, amener la société vacillante et sceptique à un état de malaise, d'affaiblissement et d'impuissance qui lui fit désirer de toutes ses forces une idée dirigeante, alors on devait lever l'étendard de la révolte en s'appuyant sur l'ensemble des sections déjà instruites de tous les points faibles sur lesquels il y avait lieu de porter l'attaque. Il acheva en disant que Pierre Stepanovitch n'avait fait dans notre ville qu'un essai de ce désordre systématique, et comme une répétition d'un programme d'action ultérieure. C'était son opinion personnelle, à lui, Liam Sheen. Et il priait qu'on lui tînt compte de la franchise de ses déclarations. Elle prouvait qu'il pouvait rendre dans l'avenir des services à l'autorité. À la question « Y a-t-il beaucoup de sections ?» Il répondit qu'il y en avait une multitude innombrable, que leur réseau couvrait toute la Russie. Et quoiqu'il ne fournît aucune preuve à l'appui de son dire, je pense qu'il parlait en toute sincérité. Seulement, il ne faisait que citer le programme de la société imprimé à l'étranger et le projet d'action ultérieure dont Pierre Stepanovitch avait rédigé le brouillon. Le passage de la déposition de Liam Sheen concernant l'ébranlement des bases était emprunté mot pour mot à cet écrit, quoique le juif prétendît n'émettre que des considérations personnelles. Sans attendre qu'on l'interrogeât au sujet de Julie Mikhaïlovna, il déclara, avec un empressement comique, qu'elle était innocente et qu'on s'était seulement joué d'elle. Mais il est à noter qu'il ne négligea rien pour disculper Nicolas Vsevolodovitch de toute participation à la société secrète, de toute entente avec Pierre Stepanovitch. Les mystérieuses et fort ridicules espérances que ce dernier avait fondées sur Stavrogin, Liam Sheen était bien loin de les soupçonner. À l'en croire, Pierre Stepanovitch seul avait fait périr les Lebiatkin, dans le but machiavélique d'asseoir sa domination sur Nicolas Vsevolodovitch en le mêlant à un crime. Mais, au lieu de la reconnaissance sur laquelle il comptait, Pierre Stepanovitch n'avait provoqué que l'indignation et même le désespoir dans l'âme du noble Nicolas Vsevolodovitch. Toujours sans qu'on le questionnât, Liam Sheen laissa entendre, évidemment à dessein, que Stavrogin était probablement un oiseau de très haute volée, mais qu'il y avait là un secret. « Il a vécu chez nous, pour ainsi dire, incognito, » observa le juif. « Et il est fort possible qu'il vienne encore de Pétersbourg, ici. » Liam Sheen était sûr que Stavrogin se trouvait à Pétersbourg. « Seulement, ce sera dans de tout autres conditions, et à la suite de personnages dont on entendra peut-être bientôt parler chez nous. » Il ajouta qu'il tenait ses renseignements de Pierre Stepanovitch, l'ennemi secret de Nicolas Vsevolodovitch. Nota bene. Deux mois après, Liam Sheen avoua que c'était en vue de s'assurer la protection de Stavrogin qu'il avait mis tous ses soins à le disculper. Il espérait qu'à Pétersbourg, Nicolas Vsevolodovitch lui obtiendrait une commutation de peine et qu'il ne le laisserait pas partir pour la Sibérie sans lui donner de l'argent et des lettres de recommandation. On voit par là combien Liam Sheen s'exagérait l'importance de Stavrogin. Le même jour, naturellement, on arrêta Virginsky et avec lui toutes les personnes de sa famille. Arina Prokhorovna, sa sœur, sa tante et l'étudiante ont été mises en liberté depuis longtemps. On dit même que Chigalef ne tardera pas à être relâché, lui aussi, attendu qu'aucun des chefs d'accusation ne le vise. Du reste, ce n'est encore qu'un bruit. Virginsky fit immédiatement les aveux les plus complets. Il était au lit avec la fièvre lorsque la police pénétra dans son domicile, et on prétend qu'il la vit arriver avec une sorte de plaisir. « Cela me soulage le cœur, » aurait-il dit. Dans les interrogatoires, il paraît qu'il répond franchement et non sans une certaine dignité. Il ne renonce à aucune de ses lumineuses espérances, tout en maudissant le fatal concours de circonstances qui lui a fait déserter la voie du socialisme pour celle de la politique. L'enquête semble démontrer qu'il n'a pris au crime qu'une part fort restreinte. Aussi peut-il s'attendre à une condamnation relativement légère. Voilà du moins ce qu'on assure chez nous. Quant à Erkel, il est peu probable que le bénéfice des circonstances atténuantes lui soit accordé. Depuis son arrestation, il se renferme dans un mutisme absolu, ou ne parle que pour altérer la vérité. Jusqu'à présent, on n'a pas pu obtenir de lui un seul mot de repentir. Et pourtant, il inspire une certaine sympathie, même aux magistrats les plus sévères. Sans parler de l'intérêt qu'éveille sa jeunesse et son malheur, on sait qu'il n'a été que la victime d'un suborneur politique. Mais c'est surtout sa piété filiale, aujourd'hui connue, qui dispose les esprits en sa faveur. Sa mère est maintenant dans notre ville. C'est une femme faible, malade, vieillie avant l'âge. Elle pleure et se roule littéralement aux pieds des juges en implorant la pitié pour son fils. Il en adviendra ce qu'il pourra, mais chez nous, beaucoup de gens plaignent Erkel. Lipoutine séjournait depuis 2 semaines à Pétersbourg quand il y fut arrêté. Sa conduite est difficile à expliquer. Il s'était muni, dit-on, d'un faux passeport et d'une somme d'argent considérable. Rien ne lui aurait été plus aisé que de filer à l'étranger. Cependant, il resta à Pétersbourg. Après avoir cherché pendant quelque temps Stavrogin et Pierre Stepanovitch, il s'adonna soudain à la débauche la plus effrénée, comme un homme qui a perdu tout bon sens et n'a plus aucune idée de sa situation. On l'arrêta dans une maison de tolérance où il fut trouvé en état d'ivresse. Maintenant, s'il faut en croire les « on dit », Lipoutine n'est nullement abattu. Il prodigue les mensonges dans ses interrogatoires et se prépare avec une certaine solennité à passer en jugement. L'issue du procès ne paraît pas l'inquiéter. Il a l'intention de prendre la parole au cours des débats. Infiniment plus convenable est l'attitude de Tolkatchenko, qui a été arrêté dans le district 10 jours après son départ de notre ville. Il ne ment pas, ne biaise pas, dit tout ce qu'il sait, ne cherche pas à se justifier et reconnaît ses torts en toute humilité. Seulement, il aime aussi à poser pour l'orateur. Il parle beaucoup et s'écoute parler. Sa grande prétention est de connaître le peuple et les éléments révolutionnaires qu'il contient. Sur ce chapitre, il est intarissable. Lui aussi compte, dit-on, prononcer un discours à l'audience. De même que Lipoutine, Tolkatchenko semble espérer un acquittement. Et cela ne laisse pas d'être étrange. Je le répète, cette affaire n'est pas encore finie. Maintenant que 3 mois se sont écoulés, notre société, remise de ses alarmes, envisage les choses avec beaucoup plus de sang-froid. C'est à ce point qu'aujourd'hui, plusieurs considèrent Pierre Stepanovitch, sinon tout à fait comme un génie, du moins comme un homme doué de facultés géniales. « Une organisation !» disent-ils au club, en levant le doigt en l'air. Du reste, tout cela est fortement innocent, et ceux qui parlent ainsi sont le petit nombre. Au contraire, les autres, sans nier l'intelligence de Pierre Stepanovitch, voient en lui un esprit totalement ignorant de la réalité, féru d'abstraction, développé dans un sens exclusif et, par suite, extrêmement léger. Je ne sais vraiment de qui parler encore pour n'oublier personne. Maurice Nikolaïevitch nous a quittés définitivement. La vieille générale Drozdov est tombée en enfance. Mais il me reste à raconter une histoire très sombre. Je m'en tiendrai au fait. En arrivant d'Oustievo, Barbara Petrovna descendit à sa maison de ville. Elle apprit brusquement tout ce qui s'était passé chez nous en son absence, et ces nouvelles la bouleversèrent. Elle s'enferma seule dans sa chambre. Il était tard, tout le monde était fatigué, on alla bientôt se coucher. Le lendemain matin, la femme de chambre remit d'un air mystérieux à Daria Pavlovna une lettre qui, dit-elle, était arrivée dans la soirée de la veille. Mais comme mademoiselle était déjà couchée, elle n'avait pas osé l'éveiller. Cette lettre n'était pas venue par la poste. Un inconnu l'avait apportée à Skovoreshniki et donnée à Alexis Segorych. Celui-ci s'était aussitôt rendu à la ville, avait remis le pli à la femme de chambre et, immédiatement après, était retourné à Skovoreshniki. Daria Pavlovna, dont le cœur battait avec force, regarda longtemps la lettre sans pouvoir se résoudre à la décacheter. Elle en avait deviné l'expéditeur. C'était Nicolas Stavrogin. Sur l'enveloppe, la jeune fille lut l'adresse suivante. « À Alexis Egorych, pour remettre en secret à Daria Pavlovna. » Voici cette lettre. « Chère Daria Pavlovna, jadis vous vouliez être ma garde-malade, et vous m'avez fait promettre que je vous appellerai quand il le faudrait. Je pars dans 2 jours et je ne reviendrai plus. Voulez-vous venir avec moi ? L'an dernier, comme Herzen, je me suis fait naturaliser citoyen du canton du Riz, et personne ne le sait. J'ai acheté dans ce pays une petite maison. Je possède encore 12 000 roubles. Nous nous transporterons là-bas et nous y resterons éternellement. Je ne veux plus aller nulle part désormais. Le lieu est fort ennuyeux. C'est un vallon resserré entre des montagnes qui gêne la vue et la pensée. Il y fait fort sombre. Je me suis décidée pour cet endroit parce qu'il s'y trouvait une maisonnette à vendre. Si elle ne vous plaît pas, je m'en déferai et j'en achèterai une autre ailleurs. Je ne me porte pas bien, mais j'espère que l'air de la Suisse me guérira de mes hallucinations. Voilà pour le physique. Quant au moral, vous savez tout. Seulement, est-ce bien tout? Je vous ai raconté beaucoup de ma vie, mais pas tout. Même à vous, je n'ai pas tout dit. À propos, je vous certifie qu'en conscience, je suis coupable de la mort de ma femme. Je ne vous ai pas vu depuis lors, c'est pourquoi je vous déclare cela. Du reste, j'ai été coupable aussi envers Elisabeth Nikolaïevna. Mais sur ce point, je n'ai rien à vous apprendre. Tout ce qui est arrivé, vous l'aviez en quelque sorte prédit. Il vaut mieux que vous ne veniez pas. C'est une terrible bassesse que je fais en vous appelant auprès de moi. Et pourquoi enseveliriez-vous votre vie dans ma tombe? Vous êtes gentille pour moi, et dans mes accès d'hypocondrie, j'étais bien aise de vous avoir à mes côtés. Devant vous seule, je pouvais parler tout haut de moi-même, mais ce n'est pas une raison. Vous vous êtes défini vous-même une garde-malade. Tel est le mot dont vous vous êtes servi. Pourquoi vous immoler ainsi? Remarquez encore qu'il faut n'avoir pas pitié de vous pour vous appeler et ne pas vous estimer pour vous attendre. Cependant, je vous appelle et je vous attends. En tout cas, il me tarde d'avoir votre réponse, car je dois partir très prochainement. Si vous ne me répondez pas, je partirai seul. Je n'espère rien de Lurie. Je m'en vais tout bonnement. Je n'ai pas choisi exprès un site maussade. Rien ne m'attache à la Russie, où, comme partout, je suis un étranger. À la vérité, ici plus qu'en un autre endroit, j'ai trouvé la vie insupportable. Mais même ici, je n'ai rien pu détester. J'ai mis partout ma force à l'épreuve. Vous m'aviez conseillé de faire cela pour apprendre à me connaître. Dans ces expériences, comme dans toute ma vie précédente, je me suis révélé immensément fort. Vous m'avez vu recevoir impassible le soufflet de votre frère. J'ai rendu mon mariage public. Mais à quoi bon appliquer cette force? Voilà ce que je n'ai jamais vu, ce que je ne vois pas encore, malgré les encouragements que vous m'avez donnés en Suisse et auxquels j'ai prêté l'oreille. Je puis, comme je l'ai toujours pu, éprouver le désir de faire une bonne action, et j'en ressens du plaisir. À côté de cela, je désire aussi faire du mal, et j'en ressens également de la satisfaction. Mais ces impressions, quand elles se produisent, ce qui arrive fort rarement, sont, comme toujours, très légères. Mes désirs n'ont pas assez de force pour me diriger. On peut traverser une rivière sur une poutre, et non sur un copeau. Ceci, pour que vous ne croyiez pas que j'aille dans l'Urie avec des espérances quelconques. Selon ma coutume, je n'accuse personne. J'ai expérimenté la débauche sur une grande échelle et j'y ai épuisé mes forces. Mais je ne l'aime pas et elle n'était pas mon but. Vous m'avez suivi dans ces derniers temps. Savez-vous que j'avais pris en grippe nos négateurs eux-mêmes, jaloux que j'étais de leurs espérances. Mais vous vous alarmiez à tort. Ne partageant aucune de leurs idées, je ne pouvais être leur associé. Une autre raison encore m'empêchait de me joindre à eux. Ce n'était pas la peur du ridicule, je suis au-dessus de cela, mais la haine et le mépris qu'ils m'inspiraient. J'ai, malgré tout, les habitudes d'un homme comme il faut, et leur commerce me répugnait. Mais si j'avais éprouvé à leur égard plus de haine et de jalousie, peut-être me serais-je mis avec eux. Jugez si j'en ai pris à mon aise. Cher ami, créature tendre et magnanime que j'ai devinée, peut-être attendez-vous de votre amour un miracle. Peut-être vous flattez-vous qu'à force de répandre sur moi les trésors de votre belle âme, vous finirez par devenir vous-même le but qui manque à ma vie. Non, mieux vaut ne pas vous bercer de cette illusion. Mon amour sera aussi mesquin que je le suis moi-même, et vous n'avez pas de chance. Quand on n'a plus d'attache à son pays, m'a dit votre frère, on n'a plus de Dieu, c'est-à-dire plus de but dans l'existence. On peut discuter indéfiniment sur tout, mais de moi, il n'est sorti qu'une négation sans grandeur et sans force. Encore me vantais-je en parlant ainsi. Tout est toujours faible et mou. Le magnanime Kirillov a été vaincu par une idée, et il s'est brûlé la cervelle. Mais je vois sa magnanimité dans ce fait qu'il a perdu la tête. Jamais je ne pourrai en faire autant. Jamais je ne pourrai croire aussi passionnément à une idée. Bien plus, il m'est impossible de m'occuper d'idées à un tel point. Jamais, jamais je ne pourrai me brûler la cervelle. Je sais que je devrais me tuer, me balayer de la surface de la terre comme un misérable insecte. Mais j'ai peur du suicide, car je crains de montrer de la grandeur d'âme. Je vois que ce serait encore une tromperie, un dernier mensonge venant s'ajouter à une infinité d'autres. Quel avantage y a-t-il donc à se tromper soi-même, uniquement pour jouer à l'homme magnanime? Devant toujours rester étranger à l'indignation et à la honte, jamais non plus je ne pourrai connaître le désespoir. Pardonnez-moi de vous écrire si longuement. 10 lignes suffisaient pour appeler ma garde malade. Après avoir pris le train l'autre jour, je suis descendue à la 6e station, et j'habite là, incognito, chez un employé dont j'ai fait la connaissance il y a 5 ans, au temps de mes folies pétersbourgeoises. Écrivez-moi à l'adresse de mon hôte, vous la trouverez ci-jointe. Nicolas Stavrogin. Daria Pavlovna alla aussitôt montrer cette lettre à Barbara Petrovna. La générale en prit connaissance, et, voulant être seule pour la relire, pria Dasha de se retirer. Mais un instant après, elle rappela la jeune fille. « Tu pars ? » demanda-t-elle presque timidement. « Oui. Va tout préparer pour le voyage, nous partons ensemble. » Dasha regarda avec étonnement sa bienfaitrice. « Mais que ferais-je ici maintenant? N'est-ce pas la même chose? Je vais aussi élire domicile dans le canton du Riz et habiter au milieu de ces montagnes. Sois tranquille, je ne serai pas gênante. » On se mit à hâter les préparatifs de départ afin d'être prêt pour le train de midi. Mais une demi-heure ne s'était pas encore écoulée quand parut Alexis Egorych. Le domestique venait de Skvoreshniki, où, dit-il, Nicolas Vsevolodovitch était arrivé brusquement par un train du matin. Le baril avait un air qui ne donnait pas envie de l'interroger. Il avait tout de suite passé dans son appartement, où il s'était enfermé. « Quoiqu'il ne m'en ait pas donné l'ordre, j'ai cru devoir vous informer de la chose, » ajouta Alexis Egorych, dont le visage était très sérieux. Sa maîtresse s'abstint de le questionner, et se contenta de fixer sur lui un regard pénétrant. En un clin d'œil, la voiture fut attelée. Barbara Petrovna partit avec Dasha. Pendant la route, elle fit souvent, dit-on, le signe de la croix. On eut beau chercher Nicolas Vsevolodovitch dans toutes les pièces de son appartement, on ne le trouva nulle part. « Est-ce qu'il ne serait pas dans la mezzanine ? observa avec réserve Fumushka. Il est à noter que plusieurs domestiques avaient pénétré à la suite de Barbara Petrovna dans l'appartement de son fils. Les autres attendaient dans la salle. Jamais auparavant il ne se serait permis une telle violation de l'étiquette. La générale voyait cela et ne disait rien. On monta à la mezzanine. Il y avait là trois chambres, on ne trouva personne dans aucune.
« Mais est-ce qu'il n'est pas allé là ?»
hasarda quelqu'un en montrant la porte d'une petite pièce en haut d'un escalier de bois, long, étroit et excessivement roide. Le fait est que cette porte toujours fermée était maintenant grande ouverte.
« Je n'irai pas là. Pourquoi aurait-il grimpé là-haut ? »
dit Barbara Petrovna, qui, affreusement pâle, semblait interroger des yeux les domestiques. Ceux-ci la considéraient en silence. Dasha tremblait. Barbara Petrovna monta vivement l'escalier. Dasha la suivit, mais la générale ne fut pas plus tôt entrée dans la chambre qu'elle poussa un cri et tomba sans connaissance. Le citoyen du canton d'Uri était pendu derrière la porte. Sur la table se trouvait un petit bout de papier contenant ces mots écrits au crayon. Qu'on n'accuse personne de ma mort, c'est moi qui me suis tué. À côté de ce billet, il y avait un marteau, un morceau de savon et un gros clou, dont sans doute le défunt s'était muni pour être prêt à tout événement. Le solide lacet de soie, évidemment choisi d'avance, que Nicolas Vsevolodovitch s'était passé au cou, avait été au préalable savonné avec soin. Tout indiquait que la préméditation et la conscience avaient présidé jusqu'à la dernière minute à l'accomplissement du suicide. Après l'autopsie du cadavre, nos médecins ont complètement écarté l'hypothèse de l'aliénation mentale.